Chapitre 37. Marché d'Akodesewa, Lomé, Togo. Cela faisait des années que le lieutenant Babou Diop n'était pas revenu à Akodesewa. Il s'était téléporté en centre-ville de Lomé, puis avait longé l'Atlantique par la plage, jusqu'au marché des féticheurs. Depuis la téléportation humaine, le quartier d'Akodesewa avait gagné en réputation chaque année, et désormais des visiteurs du monde entier s'y agglutinaient. La foire battait son plein. Babou ne reconnaissait rien. L'ancien marché vaudou africain, où chacun venait chercher au millénaire dernier des ingrédients étranges discrètement recommandés par des sorciers, avait été remplacé par une braderie où une foule hétéroclite se pressait. La disparition des grandes religions avait eu pour conséquence de renforcer le poids des superstitions, et les objets supposés magiques, gris-gris, potions, animaux empaillés, amulettes, os et crânes, se mélangeaient à ceux issus de rites religieux dont la grande majorité des terriens avaient oublié l'originelle signification. Les flacons d'eau bénite étaient exposés aux mêmes étals que les fioles de sang de crapaud. Des croix, des bouddhas, des mains de Fatma, des menorahs étaient alignés au milieu de reproductions de sabres laser, de baguettes magiques ou de cornes de licorne. Chacun marchandait, discutait, s'étonnait. La densité du lieu devait dépasser les 10 000 habitants au kilomètre carré. Un record mondial. D'après la légende, c'est ici, dans l'ancien Togo, qu'Ossian, après sa démission fracassante du Congrès mondial, s'était exilé pour rédiger son fameux « droit du sang ». Babou s'éloigna et s'installa à la terrasse du Mandingue, un petit bar en bord de plage. Il commanda 2 sodabi, le vin de palme local. Au moment précis où le serveur les apporta, s'étonnant de ne découvrir qu'un seul client attablé, Shérif Al-Jabbar apparut. Il attrapa le verre avant que le serveur ne le pose sur la table et trinqua avec le lieutenant Diop. « Babou, vieux frère, des années que tu m'as abandonné. J'attends la retraite, vieille crapule, pour arrêter de me désintégrer un peu partout sur cette foutue planète, ne plus bouger de chez moi et inviter tous ceux que j'aime. » Tu as toujours été le plus sage de nous deux, l'ami. Vas-y, raconte. Pourquoi t'es-tu subitement souvenu de ton vieux camarade ? Babou, avant de raconter à Shérif les événements récents, leur enquête, leurs interrogations, de Cannes à Pichipoy, en passant par les exemplaires de droit du sang retrouvés sur chaque scène de crime, prit le temps de demander des nouvelles de son ami. Ils s'étaient rencontrés à l'École internationale d'administration, promotion Obama, il y a plus de 30 ans. Shérif avait choisi la voie scientifique et intégré le cercle des tout premiers ingénieurs travaillant sur la base de données Pangaea, au balbutiement de la téléportation humaine, alors que Babou était entré au bureau d'investigation criminelle. « Tu vois, vieux frère, » expliqua Shérif, « j'ai passé ma vie à travailler avec des ordinateurs pour seule compagnie. Je peux te le dire maintenant que j'ai pris de la distance avec tout ça. Ce sont les enfants les plus ingrats qui soient. On leur donne tout, on leur apprend tout, on les fabrique à notre image et ils finissent toujours par nous dépasser. Et même nous remplacer. Nous étions plus d'une centaine d'ingénieurs au lancement de Pangaea, à écrire jour et nuit des lignes de code. Une fois les algorithmes bouclés, la base de données s'est débrouillée comme une grande. Plus besoin de personne pour la nourrir ou l'aborder. Je sais pas s'ils sont encore 10 ingénieurs derrière aujourd'hui. »
Une seule, pensa Babou. Une seule. Mais il se retint de le confier à son ami et se contenta de porter ses lèvres à son verre de sodabi.
« J'ai pris du recul, » continua de monologuer Shérif. « Terminé les chiffres. Je m'occupe d'histoire, de philosophie, d'art. Histoire de me tenir à distance de ce monstre que nous avons créé. Ce monstre dont plus personne ne peut se passer. Même moi. Tu imagines aujourd'hui s'intéresser à l'art et l'histoire et ne pas pouvoir voyager ?»
Ils discutèrent encore de longues minutes, vidant plusieurs verres avant que Babou n'entre dans le vif du sujet.
« Tu as connu Ossian quand tu travaillais pour l'OMD. »
Shérif sourit.
« Ouais, je l'ai bien connu, même si je n'ai jamais partagé de sodabi avec lui. Il était élu au Congrès à l'époque, sans doute son membre le plus important avec Galiléo Nemrod. Ils étaient les deux jeunes cavaliers les plus prometteurs sur l'échiquier politique mondial, les deux conseillers privilégiés du président Columbus Juan Roy. Ils défendaient chacun leur ligne au sein du PDM, le Parti démocratique mondial. Nemrod et sa fameuse utopie universelle, qui aboutira à la constitution de 2058. Une terre, un peuple, une langue. te développe pas tous les articles, tu connais le refrain. Ossian, au contraire, misait sur le respect de chaque peuple, chaque langue, chaque religion, la diversité dans l'unité, comme il le théorisait, la dialogique, l'approche systémique, le tout qui est plus que la somme des parties. Donc chaque nation doit conserver son autonomie, enfin, je te fais pas de dessin, hein, tu connais tout autant que moi ce couplet-là. Tout le monde pensait qu'il y aurait une compétition féroce entre les deux jeunes leaders politiques, et peut-être même une alternance entre les deux grands courants de pensée, comme entre la gauche et la droite à la fin du dernier millénaire, si tu veux. Et puis non, il n'y a pas eu de match. Galiléo Nemrod est parvenu à rassembler l'immense majorité des terriens derrière son utopie. Les premiers sondages de l'Ecclésia lui ont rapidement donné une confortable avance. Tout le monde avait envie d'y croire, dans l'euphorie de la téléportation humaine. Personne n'en voyait les dangers. Ossian passait pour un oiseau de mauvais augure hostile au progrès et à la liberté de se déplacer. Pour ne pas disparaître de la scène politique, il a dû ratisser sur les extrêmes, s'allier avec des groupuscules qui ne cherchaient qu'à défendre leurs privilèges séculaires. Des religieux intégristes, des sectes racistes, des terroristes nationalistes, un rassemblement hétéroclite au sein duquel tous se détestaient parce que leurs intérêts divergeaient. Ils essayaient juste de sauver les meubles alors que leur pouvoir spirituel ou intellectuel filait à la poubelle. Le président Juan Roy a choisi sans ambiguïté Nemrod comme poulain. Les premières élections ont été triomphales pour Galiléo. Puis il y a eu Pangaea, la constitution de 2058, la généralisation de la démocratie directe par l'Ecclésia. Une révolution qui a porté une paix telle que jamais le monde n'en avait connue. Ossian est resté le seul opposant, mais il ne représentait plus qu'à peine 5% des votes. On ne rame pas contre le sens de l'histoire. Alors, progressivement, il a durci son discours. Il a tapé plus fort. Il voulait apparaître comme le seul qui parlait vrai, osait, décomplexé face à la pensée unique. Personne ou presque ne le suivait. Ses derniers soutiens l'ont lâché quand il a commencé à parler de l'apport des grandes guerres dans l'histoire de l'humanité, de la conquête territoriale comme un besoin vital des races et des races supérieures aliénant celles inférieures comme un moteur indispensable du développement de l'espèce humaine. Bref, il a pété les plombs jusqu'à être exclu du Congrès mondial. C'est là qu'il a disparu de la circulation. On suppose, même si rien ne le prouve, qu'il est venu se réfugier ici, au milieu des derniers évêques, ayatollahs et chefs de clan qui continuaient de brader leur baratin d'avant. Il a profité de sa retraite pour écrire son fameux « droit du sang », immédiatement interdit pour le danger qu'il représentait. Bon, ça a eu pour effet de définitivement ranger Ossian dans le camp des hors-la-loi, mais aussi de redonner un coup de fouet à ses idées, reprises en version modérée par quelques partisans, les Liberstados, qui surfaient sur les premiers désenchantements de la Constitution de 2058. Babou avait tout écouté sereinement. Il n'avait pas appris grand-chose. Comme tout et rien, il était au courant de cette partie de l'histoire récente du monde. Mais l'exposé de son ami avait le mérite de synthétiser la complexité de ses intrigues politiques. « D'accord pour la version officielle, shérif. Tu l'as un peu connu, toi aussi. Hein. Il était comment? Humainement, je veux dire. Tu veux le vrai fond de ma pensée? Je préférerais. Un fou. Un fou dangereux. Autant Galiléo Nemrod était un militant visionnaire et stratège, un génie politique, avec tout ce que cela compte de machiavélisme et d'opportunisme, autant j'ai toujours considéré Ossian comme une bombe dégoupillée. Un génie lui aussi, un leader suprêmement intelligent, mais dans la lignée des Napoléons, des Staline et des Hitler, pour te donner une idée. Il aurait eu ce genre de destin, j'en suis persuadé, s'il avait pu accéder au pouvoir. Raté, c'est fini aujourd'hui, le temps des empires et des dictatures. Ossian est né un siècle trop tard.
Ou trop tôt, commenta Babou. Même si son livre est officiellement interdit, de plus en plus de gens le lisent bien caché dans leur espace privé. Quelqu'un sait où il s'est retiré?
Shérif secoua négativement la tête. Babou marqua un silence, puis interrogea à nouveau son ami du regard.
Autre question, camarade. Toi qui t'intéresses à l'histoire. Un seul mot. Pichipoy. Cela représente quoi pour toi?
Pichipoy?
Shérif Al-Jabbar ne put dissimuler un rictus, comme si un fantôme l'avait frôlé.
As-tu entendu parler de ça?
Babou expliqua. Les mots gravés dans le tronc du cocotier de Tetamanou, dans le pin devant le palace de Tan Prao. Shérif essuya une goutte de sueur sur son front.
Pichipoy, d'un point de vue historique, c'est le nom donné par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à la terre inconnue où les trains blindés les emportaient.
Ça, je sais, s'agaça Babou.
Mais l'ex-ingénieur lui fit signe d'un geste de la main de le laisser finir. Mais, à mon sens, ce mot peut avoir une autre signification, surtout à l'ère de la téléportation humaine. C'est d'ailleurs une des dérives potentielles qu'évoque Ossian dans Droit du sang. Vas-y, détaille. À ton avis, comment fonctionne toute dictature? Comment survit tout système totalitaire? Il désigne des ennemis, si possible des ennemis de l'intérieur, des boucs émissaires si tu préfères. Il leur fait porter la responsabilité de toutes les frustrations de la population, puis il les élimine, pour aboutir à une race pure débarrassée de ses opposants supposés.
Je vois, on purge, on nettoie. Mais quel rapport entre Ossian, Pitchy Poy et la téléportation humaine?
C'est tout simple, mon vieux. Simple et sacrément flippant. Selon toi, quelle a été depuis toujours la méthode de nettoyage la plus efficace?
Babou resta un instant le verre en l'air, avant de proposer une réponse.
L'épuration ethnique?
Exact, fit Shérif. Et en conséquence, d'un point de vue logistique, la déportation. C'est selon moi ce que signifie Pitchy Poy. La déportation. Emmener quelqu'un là où il ne veut pas aller.
Attends, souffla Babou en reposant trop violemment son verre de sodabi. Je comprends pas. C'est interdit. La Constitution de 2058 garantit la liberté de déplacement. Article 4. Nul ne peut être déplacé contre son gré. On peut bloquer l'accès à certains lieux ou le limiter, mais pas téléporter quelqu'un contre sa volonté.
Shérif sourit en portant une nouvelle fois le verre de sodabi à ses lèvres.
Bien sûr, c'est interdit. Mais c'est une possibilité dont pourrait disposer un gouvernement mondial. Une possibilité que prophétisait Ossian.
Babou hésita à évoquer les assignés. Shérif connaissait-il leur existence?
Ces assignés n'avaient cependant rien à voir avec une déportation massive. Ils n'étaient que quelques centaines libres de leur déplacement dans un espace très vaste.
Imagine, continua Shérif en reposant son verre. Imagine ce qui se serait passé si Hitler avait disposé d'une telle puissance de déportation. Plus besoin de rafles, plus de Veldiv, plus de ghettos. Il aurait juste eu à appuyer sur un bouton et tous les indésirables, juifs, homosexuels, gitans, handicapés, disparaissaient du jour au lendemain. Des familles entières téléportées hors de leur quartier sans possibilité pour leurs voisins de les cacher. Imagine si Staline avait disposé d'un tel outil. Un seul mot de trop, un seul soupçon, une seule dénonciation et hop! Une seule ligne de code suffit pour envoyer le dissident en Sibérie.
Voilà, vieux frère, ce que signifie selon moi Pitchy Poy. Pitchy Poy, ce sont les wagons blindés où l'on entassait les hommes, les femmes et les enfants vers des camps. Ce sont ces wagons blindés, mais sans besoin de trouver des conducteurs de train, des chefs de gare, des gendarmes, des gardes-chiourmes, des bourreaux pour faire le sale boulot. Voilà cette arme que dénonçait Ossian. S'il avait eu le pouvoir, nul doute qu'il l'aurait utilisé.
Babou observa devant l'entrée du marché des féticheurs le mouvement perpétuel des touristes qui apparaissaient et disparaissaient. Absolument personne ne s'étonnait que des dizaines d'inconnus chaque seconde, des familles entières s'évaporent en un éclair.
Et c'est techniquement possible, une telle déportation massive?
Je ne sais pas. À l'époque, quand j'étais ingénieur sur le programme Pangaea, ça ne l'était pas. Mais je suis plus aux affaires depuis longtemps. Du strict point de vue de la physique quantique, ça ne me semble pas très compliqué. La véritable limite, comme pour toutes les innovations d'ailleurs, se situe sur le plan éthique, pas technique.
Babou frissonna. Ils se levèrent et s'engagèrent tous les deux dans les allées du grand marché. Les stands lui semblèrent soudain plus effrayants qu'amusants. Les crânes, les animaux empaillés, les aiguilles, les peaux de serpents séchées, les vierges aux yeux clos, les boules de cristal. Les touristes se pressaient devant les étals, tout en écoutant les boniments des vendeurs, la plupart déguisés en sorciers, prêtres vaudous, guerriers scythes, moines tibétains, pitis grecs.
La science est impuissante, pensa Babou. Elle peut bien expliquer les uns après les autres tous les mystères depuis la création de l'univers. Elle n'en réduira pas pour autant le besoin profondément humain de magie et d'irrationnel.
Le lieutenant sénégalais poussa son vieil ami vers la plage, presque déserte. La foule se concentrait uniquement sur la plage centrale d'Akodesewa.
Message reçu, conclut Babou. Alors accrochons-nous à ça et parlons technique.
Nous avons un autre problème. On l'a baptisé Khan. »
Le lieutenant résuma brièvement les apparitions et disparitions inexplicables de l'assassin, sans qu'il ait laissé de traces sur aucune des bases de données. Shérif Al-Jabbar plissait le front, signe d'une intense réflexion.
« C'est une équation impossible, » lâcha-t-il. « Si on se place du point de vue de Pangaea, aucun déplacement n'échappe à l'algorithme. Chacun correspond à un nom et tous sont enregistrés. »
Il s'arrêta devant un stand qui proposait des dizaines d'essences, camphre, santal, myrrhe, oliban.
« Quand on est face à un tel tour de magie, l'ami, il faut toujours prendre le problème à l'envers et isoler le seul moment où le magicien a pu escamoter le lapin. »
Babou se contenta de hocher la tête, soucieux de ne pas déconcentrer l'ex-ingénieur. L'encens en bâtonnet se consumait en un fin nuage de fumée grise qui empestait.
« Deux choses sont certaines, » raisonna Shérif. « Ton fantôme se téléporte. Ses mouvements n'apparaissent pas dans Pangaea. Une seule solution alors. Il les a effacés. »«
C'est possible ?» s'étouffa Babou.
« Tout est possible avec l'informatique. Mais seulement de deux façons. La première, c'est de trafiquer le noyau central. Sauf que seul le cerveau de Pangaea y a accès. Pas même les ingénieurs systèmes, pas même Nemrod.
Pangaea, pensa Babou. La fameuse Pangaea que devait rencontrer Misha.
La seconde, poursuivit Shérif, c'est de tout effacer en local. C'est la solution la plus vraisemblable. Se déplacer, puis effacer ses traces derrière soi comme un voleur balaye les empreintes qu'il a laissées dans la poussière.
Je croyais que chaque déplacement était enregistré et que
Shérif, à la façon d'un sorcier cherchant à impressionner son public, souffla doucement sur le nuage gris.
« Je t'explique. » Les gens ont du mal à se le représenter, mais tout système de télécommunication repose sur deux supports distincts. Un support virtuel d'abord, c'est-à-dire un échange invisible de données. Du son dans les téléphones de jadis, de l'image dans les vieilles télévisions, de la matière depuis la téléportation quantique. Et pour parvenir à ce résultat, on aura toujours besoin d'un second support, matériel celui-là. Des fils, des câbles, des tuyaux, des antennes. Bref, de l'énergie et des relais pour la diffuser. La téléportation ne fonctionne pas autrement. Et ces câbles peuvent être coupés par accident. Les fils peuvent être arrachés par une tempête. Les antennes peuvent tomber. En résumé, ce réseau matériel demande de l'entretien, même si la plupart des réparations ont été automatisées.
Babou avait du mal à suivre. Concrètement, Shérif, ça signifie quoi?
Ça signifie qu'il existe dans le monde une poignée de réparateurs agréés, une ou deux centaines, je dirais, dont le boulot consiste à entretenir en permanence le système matériel de téléportation ou à le réparer. C'est un travail technique qui demande une connaissance spécifique. Je ne vois qu'un de ces agents d'entretien pour être capable d'effacer manuellement un déplacement.
Babou n'avait pas attendu la fin de l'explication de son ami. Une intuition lui soufflait que Shérif avait trouvé la solution du tour de magie. En quelques clics sur sa tableta, il avait commandé au BIC la liste complète des réparateurs de TPC, depuis la mise en place du système Pangaea, et l'avait croisé avec le fichier mondial des casiers judiciaires. Ça ne prendrait qu'une poignée de secondes. À peine. Babou eut juste le temps de s'asseoir avant que la réponse tombe sur sa tableta. Une liste de 7 agents d'entretien ayant été condamnés par la justice, tous pour des délits mineurs, à l'exception d'un seul. Victor Cap. Le 29 avril 2063, une antenne relais de téléportation postée sur Lyers Rock en Australie s'était révélée défectueuse. 371 morts. De simples touristes qui avaient tenté de se téléporter près du mont et dont les corps désintégrés n'avaient jamais pu se réintégrer. Leurs particules s'étaient transformées en poussière dispersée par le vent du territoire du Nord sur 100 km à la ronde. Un fait divers que tout le monde avait oublié. Les accidents de téléportation étaient fréquents, très fréquents, les premières années, avant de devenir rarissimes aujourd'hui. Lors du procès, Victor Cap avait nié toute responsabilité, plaidé l'accident. Mais l'enquête technique avait conclu à un sabotage délibéré et l'enquête psychologique à des troubles mentaux terrifiants. Victor Cap avait été condamné à perpétuité en résidence surveillée dans son espace privé.
Une piste ? Demanda Shérif, intrigué par l'excitation du lieutenant.
Babou ne répondit pas. Il consultait la photo de Cap sur le fichier central des identités. Il lâcha un juron sonore.
Merde !
La photo ne correspondait pas. Victor Cap était un type brun, yeux noirs, visage rond et poupin, rien à voir avec Cannes, blond, fin et anguleux. Babou avait pourtant été persuadé pendant quelques secondes d'avoir tiré le bon fil. Shérif s'éloigna du stand d'encens et de ses parfums entêtants. Ils se retrouvèrent devant un vendeur d'eaux historiques, certifiées authentiques, à l'année, la longitude et la latitude près. Les plus chers portaient une étiquette garantissant l'origine du champ de bataille célèbre où ils avaient été découverts. « Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami ?» s'inquiéta Shérif.
« C'est pas lui. Je tenais un coupable idéal, Victor Cap, un agent de réparation cinglé, sauf que c'est pas lui. Notre tueur est blond aux yeux bleus.
Montre ?» Babou fit glisser l'écran devant les yeux de l'ingénieur en retraite.
« C'est pas lui ?»
répéta Shérif. Babou le fixa, étonné.
« Non, c'est pas lui !»
répéta encore Shérif Al-Jabbar.
« J'ai travaillé avec Victor Cap à l'époque. Je te confirme, c'était un surdoué en électronique tout autant qu'un type incontrôlable. Un maniaque qui te fichait la trouille rien qu'à te planter son regard dans le dos. Mais c'est pas lui sur la photo. »
Intrigué, Babou fit apparaître sur sa tablette en quelques nouveaux clics les captures d'écran du film de Darn 4 lors du massacre de Tetamanu.
« Le voici, Victor Cap !» explosa Shérif. « Ce salopard ! C'est bien lui !»« Par tous les volcans de Titan !»
souffla Babou.
« Ça veut dire que ce gars possède des appuis assez puissants pour changer sa photo dans le fichier central des identités. Qu'il se balade dans la nature alors qu'il est supposé être emprisonné dans son espace privé. Où se trouve-t-il d'ailleurs, son espace privé ?»
Babou s'apprêtait à pianoter sur sa tabletta. Shérif retint son bras.
« Pas la peine de chercher, vieux frère, je sais. C'est un type et une affaire qu'on n'oublie pas, crois-moi. Il est censé, depuis 34 ans, ne pas sortir de Kolmanskop, un village fantôme au milieu du désert du Namib.